Ok, bonjour. Donc, on va commencer notre événement matinal analogue. Donc, merci beaucoup à Christina et Paolo pour mettre à disposition cet espace, cette exposition des objets magiques donc, qui nous parlent beaucoup. Et on va commencer avec une petite présentation de notre initiative qu'on a lancée avec Natacha Petrechin-Bachelès pendant le confinement. Et après, Christina et Paul vont présenter tout brièvement leur exposition. Et après,
moi,
on va
entends.
Le tour du tableau.
Oh, super, ah, Yala. Bienvenue. Bienvenue, Yala.
Ouais, mais par contre, vous ne me voyez pas.
Non, est-ce que tu nous vois ? Par là.
Ouais, je vous vois super bien.
Coucou.
Vous êtes tous masqués. Ouais, coucou. Je suis désolée, j'arrive pas à activer ma caméra, ça marche pas.
Non, mais on t'entend bien et c'est bien, ce qui est super, ça, ouais. C'est que l'audio marche maintenant pour toi aussi. Super.
Ouais.
Merci. On était en train de donner une petite intro à ce débat matinal. Je te laisse la parole, Elena. Donc, moi, je suis Natacha Petrechin-Bachelès. Je tiens le micro avec un masque. Donc, j'espère que pour les auditrices et auditeurs, c'est audible. Et je suis vraiment ravie. Donc, ce débat-là, c'est un peu une idée à plusieurs mains, à plusieurs têtes, qui est venue surtout comme une continuation de ce que nous faisons en ce moment avec Elena. C'est une sorte de vouloir peut-être penser ce que ça pourrait être un new normal, comme on dit. Donc, une nouvelle normalité après la... pas seulement après la crise de pandémie, mais surtout face à toutes les violences que nous voyons se produire dans notre proximité quotidienne. Et dans l'art, moi, je crois fortement qu'il y a cette volonté de faire le monde, de faire le monde avec les mots, avec les gestes. Et comme on sait très bien que les mots et les gestes peuvent tuer, les mots et les gestes peuvent aussi soigner et travailler sur les relations de ce qu'on appelle les relations de care. Donc avec Elena, essayons avec cette initiative qui veut être un peu une initiative de long terme, une sorte de bulle curatoriale qui se déploie ensemble avec les artistes qui depuis très longtemps travaillent exactement sur ce type de relations qui font attention à, qui sont dès le début, qui portent attention à l'éthique, à une certaine fragilité et vulnérabilité de la position artistique qui est, comme vous savez très bien, dans les champs d'art, les relations de care, surtout quand on parle vis-à-vis des institutions, c'est quelque chose très peu existant. Et donc, du coup, je pense que ce qu'on veut faire, c'est de retrouver ces pratiques artistiques donc, qui revendiquent ce type de relations de care, et de réclamer que, pour nous, ça doit être le nouveau normal. Et pas donc la violence qui est tellement propagée de la part des élites politiques d'un côté, mais aussi d'une partie, malheureusement, de cette société dans laquelle nous sommes. Voilà pour le début de... parce que je pense qu'on est tous affectés par ce qui se passe dans les derniers jours. Et pas seulement dans les derniers jours, c'est une lutte qui, comme Yala l'a dit dans un entretien récent, c'est une lutte qui se réfère à une longue lutte qui existe dans ce pays depuis décennies. Ah, ah. Coucou. Et donc, on a réuni autour de cette table matinale vraiment un groupe assez hétérogène, mais que je pense qu'on aura beaucoup de choses à se raconter. Mais le départ, c'était cette exposition « Objets magiques » de Christina Solomouka et Paolo Cudelupi, qui sont initiateurs de cette exposition. parce que la question aujourd'hui, je pense, serait plus concernée aussi à ce rapprochement entre le public qui va entrer maintenant dans les institutions d'art, qui va être dans des conditions hyper sanitarisées, hyper disciplinarisées. Et quel type de rapprochement peut-on faire par rapport à ça et par rapport à ce qui se passe autour de nous sur les corps, dans la société, surtout sur les corps racisés? Est-ce qu'on peut penser à ça? Voilà, ça c'était un peu... est-ce qu'on peut créer et dans quel type de projet? Donc, comme on va voir, il y a plusieurs propositions autour de la table, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut soigner ces relations et proposer évidemment quelque chose d'autre et pas cette sanitarisation hyper disciplinaire? Donc ça, quand on a parlé avec Christina et Paolo, ils nous ont dit, mais voilà, on a une exposition qui a été confinée et qui va être déconfinée. Donc on se pose la question sur le public, sur l'accueil du public, sur comment prendre le temps, comment tenir la distance, mais en même temps accueillir. Et je vais passer la parole à Christina et Paolo de nous faire un petit intro pour aussi savoir où on se trouve, tout le monde là. OK ?
Alors ici, nous sommes au numéro 1 de la rue d'Orchamps, dans le 18e arrondissement, pas loin de la Cité des Arts, du bateau Lavoir, de la Fondation Cadiste, de l'ancienne maison de Dalida. La ville de Paris a pas mal d'ateliers d'artistes dans le coin aussi. Je m'appelle Christina Solomouka, je suis artiste. Je travaille en collaboration avec Paolo Codelupi. Et notre atelier se situe ici, donc au début de la rue, derrière vous. Donc en dehors de notre travail artistique, nous avons aussi une activité curatoriale. Nous faisons des projets avec d'autres artistes qui prennent des formes d'action, de programmation vidéo, d'exposition, toujours à l'échelle modeste, voire très modeste. Au début de l'année, nous avons décidé de donner une plus grande régularité à ces projets et d'imaginer une série d'expositions dans notre atelier. Qui, pour cette occasion, allait devenir la maison de l'ours, un lieu de présentation qui surgirait de temps en temps au sein de notre lieu de travail. Et pour ce moment inaugural, nous avons fait appel à une trentaine d'artistes, artistes de notre génération et des jeunes ou très jeunes artistes. Et nous avons voulu, à travers cette exposition, aborder la notion d'agentivité. La faculté d'action d'un être ou d'un objet, sa capacité d'agir sur le monde, sur le chose, sa capacité de transformer ou à les influencer. Et nous avons traduit cette notion d'agentivité par la magie, qui apportait un caractère plus festif, mystérieux, et qui finalement pouvait ouvrir vers des choses inattendues. Et donc l'exposition Objet magique, qui est son titre, était en place et allait s'ouvrir le 15 mars. Donc le 13 mars, suite à l'annonce du gouvernement, elle était donc confinée sans être inaugurée. Au bout de 2 mois de confinement, il était très très difficile pour nous de prendre une décision au sujet de l'exposition. Nous avons décidé de poser la question aux artistes pour savoir que faire. Et pour nous faire une idée, nous avons initié un échange de mails. Il faut dire aussi que certains artistes de l'exposition font partie des différents collectifs, comme Le Vendeur, In Plano, Du Radio. Et au sein de ces collectifs, la question similaire se posait, enfin les questions similaires se posaient. Et nous avons envoyé un courrier dans lequel, je vais peut-être lire un petit morceau. Donc, tu veux le lire ?
Non, vas-y.
Cette pandémie, avec son lot de mesures, de tragédies, de questionnements et d'angoisses, est une expérience assez surréaliste dont nous aimerions profiter pour réfléchir et interroger les modes de production et de diffusion du travail artistique. Nous aimerions ouvrir l'exposition Objets magiques, mais il nous semble impossible de faire comme si de rien n'était, puisque nous pensons précisément que rien ne sera comme avant. Non seulement parce qu'il faudra appliquer les mesures de distanciation et d'hygiène, mais parce que ces mesures mêmes changent notre perception. À cette micro-échelle, qui est l'exposition de notre atelier, nous aimerions traduire nos, vos réflexions en leur donnant forme. Pour cela, on aimerait vous entendre, avoir vos avis, vous poser des questions. Et pour commencer, êtes-vous d'accord qu'on ouvre l'exposition ? Si oui, quelle forme cette ouverture peut-elle prendre ? Et sinon, quelle forme cette non-ouverture peut-elle prendre ? Et est-ce que la première semaine de juin vous convient pour cette ouverture ou non-ouverture ? Donc, en échangeant des mails, nous avons commencé à réfléchir à la forme que la discussion pouvait prendre elle aussi. Une édition papier, on avait pensé à une table ronde ou une réunion Zoom enregistrée. Et c'est là, nous avons pensé à une émission radio, mais très, très de loin. Et aussi, à cette époque-là, nous avons discuté avec des amis commissaires, directrices de différents lieux d'exposition, pour savoir comment elles gèrent cette crise au sein de leurs institutions, de leurs projets, et si et comment elles pensent une réouverture. Donc cette discussion était très riche. Par exemple, Davide Bertocchi, qui est pas loin, a proposé de laisser l'exposition fermée en la transformant en objet inaccessible. C'était une sorte d'abri secret de Duchamp. D'autres artistes comme Jochen Den ont proposé de diffuser des protocoles de fabrication de leurs œuvres aux spectateurs choisis. Ou encore, il y a eu des propositions de réorganiser l'exposition dans la rue, à l'extérieur de l'espace, là où vous êtes, où nous sommes. Pour certains artistes, il était prévu d'activer leurs œuvres à l'extérieur, comme les peintures de Simon Bergala, la proposition de Céline Vachier-Oliveri et Mathieu Clanchard avec l'ail, que certaines d'entre vous avez eu dans les mains. Il y a eu la proposition de Stéphanie Raimondi, qui est là aussi, qui était activable à l'extérieur. Et il y a eu une lecture performée de Laure Mathieu. Mais en dehors de ces interventions prévues à l'extérieur, dès le départ, nous n'avons pas souhaité de modifier l'exposition. Elle était pensée sous cette forme et nous avons voulu lui donner une chance d'exister en tant que telle. Il y a la pluie qui commence. J'espère qu'elle va passer. On va mobiliser toute la magie de nos objets.
Ça va passer.
D'accord. Bah alors, je rentre un peu là-dedans et je continue. Donc, au bout de 2 semaines d'échanges, de mails et des réunions visio, et à partir des propositions d'artistes, nous avons produit une micro-fiction. Cette forme nous permettait d'informer le public de la situation dans laquelle se retrouvait l'expo, à savoir qu'elle se rendait inaccessible dès qu'on voulait l'approcher à plusieurs. Et nous avons invité le public à venir vérifier par lui-même l'étrangeté de cette situation, en précisant que l'exposition est accessible à une ou deux personnes à la fois et que Paolo et moi allons accompagner des visiteurs. Je rentre progressivement à l'intérieur pendant qu'on bouge les objets vu qu'il pleut. Enfin, ce n'est pas une grosse pluie encore, mais j'espère qu'elle va s'arrêter. Et donc, puisque notre lieu est petit, qu'il donne directement sur la rue, il était facile d'installer une table sur le trottoir, d'inviter des gens à prendre un café avec des croissants et pain au chocolat, puisque nous avons convié le public à venir le matin de 10h à midi. Donc, cette forme d'accueil était possible vu le caractère de l'exposition que nous avons pu transformer en dispositif, ce qui n'est pas forcément le cas de centres d'art ou d'autres lieux. Et il était important de marquer le fait qu'il ne s'agisse pas de vernissage ni d'ouverture d'exposition, peut-être d'une entr'ouverture. En tout cas, on ne voulait pas gâcher cette crise sans profiter de ce moment-là pour commencer un état de lieu. Et c'est pour ça que quand Natacha et Elena nous ont parlé de leur initiative, ça nous a paru génial de pouvoir ouvrir notre débat et l'amener vers d'autres horizons.
Merci beaucoup. On a vérifié la météo. On s'est préparé à tout, mais la météo, du coup, était absolument parfaite. Mais à mon avis, la pluie va se passer parce que la météo, donc tout le monde disait qu'il n'y aura pas de pluie. Moi, je pense que donc on va continuer. Et juste pour cette exposition, donc on a cherché avec Natacha de traduire, c'est-à-dire de chercher de nouvelles formes, de ne pas retomber en fait dans le business as usual, parce que donc le confinement, la crise, donc c'était quand même des circonstances assez extrêmes. Et donc, on se disait, mais où est-ce qu'on cherche? Avec qui on travaille? Et donc, cette notion de care donc, est apparue, émergée quelque part. Et donc, on s'est dit, oui, on va essayer. Et on a regardé aussi les traductions. Je sais qu'autour de cette table, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les traductions. Donc, care, c'est un mot en anglais qui est très courant, en fait. Parce qu'on dit I care pour déguiser un tout petit peu donc une déclaration de l'amour. Ou bien on dit « I don't care » pour dire qu'on s'en fiche complètement. Ou bien on dit « take care » pour dire « au revoir ». Donc c'est un mot vraiment omniprésent. Donc la traduction française est « sollicitude ». Donc c'est une traduction académique, une traduction un peu... savant, ou bien soin nous ramène quand même à des conditions médicales, ou bien à tout ce genre wellness à la mode. Donc il y a attention, donc il y a autre chose. Et donc on a décidé de justement attendre avec la traduction, de regarder un tout petit peu où ça nous emmène, et plutôt chercher des pratiques avant de traduire, avant de chercher les mots. Et donc, on va peut-être faire un dictionnaire vidéo avec des mots et des gestes de care, donc en plusieurs langues, donc des artistes donc, qui travaillent avec nous. Et en fait, parmi ces artistes, donc, il y a des artistes qui parlent farsi, ourdou, massali, donc il y a beaucoup de langues différentes. Donc, on va peut-être faire ça avant de... justement en fait caler les mots sur les pratiques, donc et peut-être pour vous informer et pour tout ce qui concerne les expositions, donc on s'est dit quand même aussi c'est des objets assez bizarres, donc on emmène des objets dans un espace, on les enferme là-bas, après on fait les queues, donc on va les voir. Et on attend quelque chose de ces objets. C'est pour ça que l'exposition Objets magiques nous a interpellés. Donc on attend des révélations de ces objets. Donc c'est pour ça aussi que Net ici, donc on a décidé de faire quelque chose qui n'est pas un vernissage, parce que l'exposition, donc il y a beaucoup de choses donc qui deviennent visibles pendant la crise. On n'a pas remarqué, on s'est habitué. En fait, il y a un protocole, donc il y a le vernissage, il y a la durée, donc il y a toutes les chorégraphies, décors à la intérieur, etc. Et on s'est décidé aussi de réfléchir sur ça, comment changer les choses, comment donc articuler d'une manière différente en fait tous ces protocoles peut-être. Voilà. Et j'aimerais bien, parce que nous sommes ravis d'avoir avec nous Olivier Marbeuf, avec le collectif The Living and the Dead Ensemble. Et je voudrais passer la parole à Olivier. Donc, on lui a posé plusieurs questions par rapport à ce projet particulier, par rapport à Ensemble, mais aussi par rapport à sa pratique.
Surtout, je dirais, Olivier, tu nous as inspirés pendant de longues années avec les différentes formes d'accueil déjà à Kiasma que tu as fondé. Et particulièrement cette forme de veillée qui a été quelque chose de comme une recherche lente d'abord d'accueil de public, mais aussi un échange avec le public sur les transmissions, sur un apprentissage mutuel. Donc c'était peut-être une première question, ça. Quelle est la continuation, vu que le Chiasma aujourd'hui s'est transformé dans un lieu pour respirer. Et on aimerait bien aussi qu'ensuite on passe la parole au collectif dont tu es le membre, avec Louis, Cynthia, Sophonie, Zach, Ross, James, Bijou, et qui sont été ici à Paris pendant le confinement, en fait confinés. Qu'est-ce que ça a fait pour le collectif? Comment ils pourraient travailler ou pas? Donc, ce serait en fait intéressant de vous donner un tout petit peu la parole sur ça, s'il vous plaît.
Merci à tous. Merci pour l'invitation de collectif, parce que c'est une invitation qui vient de plusieurs personnes et plusieurs alliés. J'ai sauté en fait des points très rapides sur, non pas répondre aux questions, mais essayer en tout cas de donner un petit peu de matière à partager ensemble. Déjà, en termes de traduction, peut-être offrir une première traduction qui, en tout cas, moi, correspond à ce que j'ai tenté de faire avec tout un tas de gens, en fait, depuis maintenant 20 ans. Et pour moi, la question du cœur, je traduis ça par l'attention. Et c'est très important pour moi, en fait, de traduire ça par la question de l'attention. Parce que comme je l'ai déjà écrit et dit, mais c'est une chose importante qui, pour moi, construit tout un ensemble de manières de penser. Le care, comme demande d'attention, c'est d'essayer de voir, en fait, ce qu'on n'a pas envie de nous montrer. Et dans le champ de l'art, dans lequel moi j'ai fait une longue partie de ma carrière, c'est essayer de regarder à des endroits où on n'a pas envie de nous laisser regarder. Donc sortir d'une pratique de l'art comme une espèce de diversion, comme une espèce de décoration de ce qu'il faudrait voir. Et donc travailler non pas sur le sujet du care, mais travailler sur une pratique du care. Et donc l'attention, ça veut dire qu'il faut regarder où se trouvent aussi les violences, et notamment les violences qui sont les plus dissimulées. C'est vrai que là, on a une séquence politique et activiste sur les questions systémiques. Alors moi, je fais partie des gens qui sont hyper contents d'entendre la presse généraliste utiliser le terme de racisme systémique, parce que c'est quelque chose... C'était un gros mot jusqu'à il y a quelques mois, quoi. Donc moi, je suis quand même assez content, même s'il y a beaucoup toujours à redire. Et de la même manière, j'ai l'impression que la question de porter attention, c'est toujours regarder, en fait, où est le sujet, en fait, réel de la... Où se passe la violence et où doit se passer le soin. Et quand on travaille dans des centres d'art ou dans des lieux d'art en général, on a fini par le comprendre quand même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de professionnels, de jeunes professionnels qui se sont emparés de la question. Le discours du soin, le soin comme thématique de l'art, dissimule des violences en fait quotidiennes et donc dissimule un manque de soin en fait. Parce qu'il y a un manque d'attention de où se créent des formes de violence. Et je pense que ça peut articuler avec ce qui se passe ici, pour aller assez vite, en disant qu'on se pose la question du public. Et pour moi, je dirais, avec Chiasma, on a eu une espèce de variation de relation à cette question-là. Et je dirais qu'on a commencé à une première phase qui était complètement dévouée, en fait, à la question du public. Qui, pour moi, étant un professionnel de l'art contemporain qui vient des quartiers populaires, ce qui est extrêmement rare, j'avais une forme d'obsession d'une légitimation par le fait d'être en rapport avec le territoire où on était. C'était pas juste un désir, c'était une obsession. Et je le dis parce que ça a des côtés négatifs, quoi. D'être complètement capté par le fait que la raison de faire son métier en Seine-Saint-Denis, ça ne peut être que prouvé par un type de rapport extrêmement intense et extrêmement investi avec l'environnement où on est. Et ça, quelque chose de très beau, de très puissant, mais ça contient aussi des côtés qui produisent de la violence. À l'inverse, beaucoup plus tard dans l'histoire de Chiasma, arrivent des pratiques de soins qui vont être des pratiques intégrées, je dirais, socialement et intellectuellement, on va dire, par la bourgeoisie de la classe moyenne qui occupe l'art contemporain, qui produit la plupart des employés. Et là, du coup, le soin devient un soin de soi. Et du coup, le projet du lieu finit par devenir un projet de soins pour ceux qui y travaillent. Ce qui en soi est une bonne question, mais est une question qui est presque qui contient les mêmes insuffisances que la première que j'ai citée, c'est-à-dire la dévotion pour les gens qu'on accueille, le désir, et puis à la fois après une espèce de dévotion pour soi et une incapacité à voir que cette dévotion pour soi recouvre en fait des questions de classe. Une catégorie sociale devient obsédée par son rapport aux soins. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas exposée en fait. Je laisse passer l'avion. Décidément, on est surveillé. Donc c'est, ah oui, c'est vrai que nous sommes le 18 juin. Hein. Non, c'est le 18 juin aujourd'hui, non? Oui, ben voilà, écoutez, excusez-moi, mais c'est un grand événement pour la France. C'est un espèce de télétravail, en fait, de la guerre, hein, le 18 juin. C'est le général de Gaulle qui appelle quand même les gens à faire la guerre en étant à Londres. Donc c'est un peu un télétravail. Il dit « Révoltez-vous, moi je suis à Londres ». Donc c'est quand même un prémisse de ce qui va nous arriver après, quoi. C'est-à-dire, ceux qui envoient les gens à la guerre n'y sont pas. Voilà, ça c'est le général de Gaulle nous le rappelle. Voilà, donc pour dire qu'en tout cas, ce deuxième moment, il est intéressant pour moi, parce que j'ai aussi pu le vivre négativement, mais je pense qu'en fait, la question du care, et là je vais citer Elsa Dorlin, c'est aussi une question de negative care. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi apprendre négativement de choses qui ne nous ont pas plu ou qui nous ont déplu pour pouvoir reconstituer un care qui est informé, donc un care de l'attention, quoi. Donc tu apprends aussi de situations qui te sont inconfortables. C'est aussi pour ça, en fait, que je pense que quand on parle dans une perspective racisée de la question du racisme systémique, c'est une question qui n'est pas pour soi, mais qui est pour les autres, en fait. C'est que je vois ce que tu ne vois pas, comme des gens qui vont être dans des sexualités qui ne sont pas les sexualités normatives, voient des choses qu'on ne voit pas. La question, c'est comment tu informes le reste de la société d'une chose que toi, tu vois avec ton corps, avec ta vie, et qui, évidemment, pendant très longtemps, y compris dans des champs informés comme l'art contemporain, il y a une espèce de colorblind, sexual blind, quoi. On est tous pareils, quoi. Il y a une espèce de violence pratiquée sur le désir d'absolument dire qu'on est tous pareils et qu'on a tous la même expérience. Et ce désir-là, il contient pour moi fondamentalement une violence qui fonde le besoin de soins. C'est-à-dire, il faut pouvoir entendre la diversité des expériences sans que ce soit un élément de séparation. On a l'impression que dès qu'on parle d'une différence, ça veut dire qu'on va créer des espèces de camps comme ça, de ça. Moi, à l'inverse, je crois que ça informe la question collective. Donc voilà, on va dire que c'est juste ce double mouvement-là. Et peut-être que le troisième mouvement sera ce qu'on a à construire aujourd'hui en étant conscient que c'est un soin pour les autres et un soin pour soi. Et cette conjugaison-là qui peut produire peut-être une forme de care qui est à la fois informée par la présence de l'autre et à la fois un truc dans lequel on est une génération de professionnels où on s'est un peu tué au travail. Donc on doit apprendre, et parfois contre soi-même, à prendre soin de soi.
Merci beaucoup. Juste pour rebondir, ça serait vraiment intéressant de regarder à travers l'histoire de l'art occidental et la production de White Cube comme un dispositif sanitaire où il n'y a plus de questions tellement des échanges, parce que c'est un espace qui veut être neutre et il n'est pas neutre du tout, donc il produit une violence. Donc ce serait vraiment dans lequel le public doit aussi commencer à se comporter comme tu dis, il n'y a pas de... c'est class blind, c'est color blind, c'est une sorte de code qui se construit par rapport à sa White Cube. Elisabeth, tu
veux... ce que nous montre très bien la plupart des photographies d'exposition, par exemple, se passe toujours en dehors des gens qui utilisent l'exposition. Hein, les photos qu'on voit dans les journaux ou dans les magazines, ou c'est des photos complètement sanitized, justement, qui où le soin est absent.
Juste pour rebondir à ce que Elisabeth vient de dire, ce fameux White Cube est quand même un espace d'intimidation sociale. Ça fonctionne comme une boutique chère où l'accrochage bijoux en fait souligne le statut de l'objet comme un objet à vendre cher. Ça change, c'est en train de changer dans les institutions, mais par contre, les galeries insistent encore. en fait, sur cette rareté, sur ce côté, en fait, que pas chacun peut rentrer. Et en fait, on a cultivé cet espace pendant longtemps quand même, et ça prend aussi longtemps de s'en débarrasser. Olivier, peut-être tu pourras donner parole à...
Oui, mais je vais faire la transition.
Exactement, je vais faire la transition.
Voilà, je vais faire la transition. Donc là, on est combien de membres? On est 8. 8 membres de Living and Dead Ensemble. On est 10 en tout. Il y en a 2 qui n'ont pas réussi à se lever ce matin. Mais on avait une lecture hier soir un peu tard. Voilà, ils sont ensemble. Et pour dire, voilà, le projet de Living and Dead Ensemble, ça a commencé à Port-au-Prince, en Haïti, en 2017, où on est arrivé avec Louis Anderson pour faire un film, et on a créé finalement un collectif. Pour résumer très vite, avant de passer la parole, je dirais que la question est intéressante ici, parce qu'elle pose une question qui a à voir avec ce qu'on veut essayer de réfléchir. C'est qu'au-delà de produire une œuvre, on s'est posé la question de quel type d'organisation et d'outils, on fabriquait pour... Là, on fait des films, des performances. On pourrait très bien les faire de manière très... Je veux dire, on fait une commande, on paye les gens. Là, on s'est posé la question de la structure la plus juste pour travailler aussi en Haïti et en rapport et à partir de la perspective caraïbienne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui de parler à partir de la Caraïbe du monde? Et donc ça, on a essayé de remonter progressivement. On en parle encore beaucoup cette semaine. On a fait plusieurs réunions là-dessus. Sur les modalités d'organisation même de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste une machine à faire des œuvres, ça ralentit le travail. On a quand même passé 2 journées à discuter plutôt que répéter. Non, mais c'est objectivement. Donc il y a des journées entières consacrées à des discussions qui ont à voir avec, je sais pas, la répartition des droits, des revenus de la structure, les projets qu'on fait, qui décide, qui prend des décisions. Donc ça veut dire aussi que moi je pense que la question d'une forme de soin, c'est aussi une question qui va toucher l'organisation et que fondamentalement ça ralentit notre manière de travailler. Donc ça pose une question qu'il faut... Un ralentissement plutôt, donc, moi je crois, positif, et ça rend plus difficile de faire les choses. Et je pense que ce qui a été facile dans l'art occidental, c'est de se poser aucune question en fait d'un modèle qui serait extérieur à ces canons. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune extériorité et que l'autre est toujours traité soit comme un autre, c'est-à-dire défini à partir d'un œil occidental, soit comme un même, c'est-à-dire défini comme on est tous pareils. Et les troisièmes voies, se dire on n'est à la fois pas tout à fait pareil, à la fois pas tout à fait des autres, on est tous des êtres humains. Et donc cette espèce de voie intermédiaire, c'est très long. Parce que passer son temps à se dire qu'on doit trouver ce qu'on a un accord, nous on a un groupe qui s'appelle un ensemble, donc c'est comme aussi l'idée de la musique. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout pareil, parce que dans un groupe de jazz, le batteur n'est pas comme le trompettiste, n'est pas comme le... Mais par contre, il n'y a pas de musique si tout le monde ne joue pas ensemble. Et la question de l'accord me semble être la source peut-être du groupe. Et peut-être que, voilà, dans le groupe, si quelqu'un peut peut-être aussi commencer à parler aussi de ce qu'a fait le confinement, puisque c'est un sujet au travail, puisque certains ont été confinés à Clichy-sous-Bois, où on est accueillis en résidence en ce moment, aux ateliers Milicis. Il y en a 6 du groupe, je crois, qui sont restés... ils ont passé 2 mois et demi dans un appartement. Je ne sais pas, Rossi, tu veux dire quelque chose à propos de ça?
Bonjour à vous tous. Moi, c'est Rossi Jacques Casimir. Et tout le monde m'appelle Rossi. Je fais partie du collectif The Living and the Dead Ensemble. Ce que je peux dire pendant le confinement, c'est que c'était une période qu'on n'était jamais habitué avec ça. Donc du coup, c'est venu comme ça. Il y a un moment que c'était très ennuyeux pour nous de rester confinés. C'est comme une prison morale. Donc le problème, c'est que ce n'est pas qu'on est confiné, mais c'est qu'on nous ordonne de ne pas sortir parce qu'il y avait une pandémie et c'est dangereux pour nous aussi. Mais avec l'instinct humain qui n'accepte pas de rester dans un endroit sans rien faire, donc ça a du coup nous énervé. Pour travailler, on n'a pas apporté grand-chose aussi, parce que là, on fait que la routine, rester tous les jours, de faire la même chose. Et des fois, on cherche des choses à nous distraire, comme la lecture et le cinéma aussi. Moi, personnellement, j'ai regardé beaucoup de films et je lis un peu beaucoup, donc c'était ma préoccupation, je peux dire. Mais avec l'ensemble, nous, là maintenant, on s'est remis du boulot et là, on travaille à fond. Donc, on espère bientôt retourner dans nos pays parce que ça nous manque un peu. C'est ce que je peux dire pendant la période du confinement, mais ça nous a beaucoup apporté aussi avec le rapprochement de l'un de l'autre. On a jamais passé une période comme ça ensemble. On s'est connus avec l'ensemble, moi, personnellement. Ça fait plusieurs années que je les connais, mais passer 2 mois et demi à vivre sur le même toit, et ça, jamais on l'a fait. Donc, du coup, c'est une bonne chose pour nous aussi de nous retrouver. Et il y a des mœurs qu'on peut détecter aussi par rapport à l'autre, des façons qu'on ne connaît pas, la face cachée, je pourrais dire. Donc, parce que la plupart des temps, c'est pour nous amuser ou pour travailler qu'on se rencontre. Mais là, vivre ensemble pendant 2 mois et demi, surtout on découvre qui l'autre est vraiment. Donc, ça, c'est un peu ça.
L'une de vous veut dire quelque chose sur Pays Loc, peut-être ? Ce serait intéressant de faire ce parallèle. Tu veux dire, Cynthia ?
Bonjour, moi, je suis Cynthia. Je suis très contente d'être parmi vous et merci pour l'invitation. En fait, par rapport au confinement, au début, ce n'était pas vraiment dur parce qu'on était ensemble. Sophonie et moi, on était à Lorient, on n'était pas avec les autres membres. Ben, au début, c'était plutôt cool parce que le confinement, on l'avait déjà vécu en quelque sorte. Parce qu'en Haïti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait le pays lock quand tout était bloqué, personne ne pouvait sortir. Du coup, avant, je me disais, ben, on a déjà vécu ça, on va survivre. Mais c'était pas du tout pareil parce que, en fait, c'était pas le même contexte. Et en plus, on était chez nous. Donc, du coup, là, c'était un peu difficile parce que, bon, au début, on se disait, ben, surtout moi, je me disais, je vais m'amuser, je vais lire, écrire, regarder des films, séries, un peu comme d'habitude, et peut-être même travailler pour la fac. Mais après, je voyais que je me mentais, en fait, parce qu'il y avait une sorte de... Comment je pourrais dire ça? J'étais déconcentrée, parce que avec les infos, parce qu'on regardait ça chaque jour, c'était comme une sorte d'appel à la dépression. Parce que chaque jour, ça augmentait, les cas augmentaient et on se disait, ben, on va jamais pouvoir rentrer chez nous. Bon, après, ben, et après, les autres, on était loin des autres. Du coup, on ne pouvait pas travailler parce que pour un ensemble et pour des comédiens, on ne peut pas vraiment travailler en étant loin de l'autre. Pour écrire, ça, on peut le faire, on peut écrire et partager par Skype, mais pour répéter, donc c'est impossible. Du coup, on se disait, ben, on ne fait rien parce qu'on est confiné, on est venu en France pour travailler, et là, on est obligé d'être confiné, de rester sans rien faire. Là, c'était un peu, je dis, déprimant, mais après, on s'en est repris, et surtout après, quand on a su qu'on allait, avec le déconfinement, c'était plutôt une sorte de soulagement, en fait, et... Du coup, ça nous a permis de tenir parce qu'on espérait, on espérait. Donc, c'est l'espoir qui nous a permis de tenir parce qu'on espère que tout va s'arranger, qu'on va pouvoir reprendre le travail et repartir chez nous, en fait. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait.
Peux-tu expliquer le contexte du Pays-Loc?
Le contexte du Pays-Loc.
Juste pour donner une idée à des gens qui ne connaissent pas.
En fait, oui. Pour le contexte du Pays-Loc, c'est à partir d'un mouvement organisé par un ensemble de jeunes haïtiens qui sont des Petro Challengers. Ce mouvement a commencé après, ben je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un fonds qu'on a donné, que le Venezuela a donné au gouvernement haïtien pour des trucs comme le développement, en quelque sorte. Mais ce fonds, il a disparu. Personne ne sait ce qu'on en a fait. Il n'y a rien eu comme projet. Du coup, le peuple, surtout les jeunes, on s'est dit, ben, où est passé l'argent du Petro-Caribé? Et là, avec cette question, il y a eu un mouvement Côte Cob Petro-Caribéa. Donc, en créole, Côte Cob Petro-Caribéa, c'est où est passé l'argent du Petro-Caribé. Donc, du coup, avec ce mouvement, il y a eu des émeutes. Un peu comme maintenant, mais ce que c'était avant, chez nous, c'était avant. Donc, il y a eu des barricades et tout le monde disait, bon, on va fermer tout. Donc, ce sera pays lock. Si on ne trouve pas, si on n'a pas la réponse, donc rien ne va fonctionner jusqu'à ce qu'on trouve la réponse, jusqu'à ce qu'on sache où est passé l'argent. Donc, du coup, on était...
Voilà.
Du coup, on était confinés, donc nous, on était plutôt avant-gardistes, mais ce n'était pas le même contexte.
Donc, Haïti, c'est toujours l'avant-garde.
Du coup, on était confinés pendant plus de 3 mois, non, c'était bien plus que ça. Donc, du coup, mais jusqu'à présent, on n'a pas la réponse. Donc, on a été obligés de déconfiner parce que quand même, on voulait fonctionner. Mais jusqu'à présent, et par rapport à la question de Paylock, on a essayé de faire un rapport avec le confinement pour voir et se dire, enfin, pour le travail, on a commencé le travail avec la question de Paylock et maintenant le confinement, il est présent parce que Paylock et confinement, on a fait une sorte de lien, comme dire on est sorti de Paylock et maintenant on est confiné, donc du coup, c'est pour le travail, en fait, pour le travail, on essaie d'utiliser tout, parce que tout nos vécus. Donc, du coup, c'est important pour nous de faire une sorte de lien avec ça.
Bonjour à tous et à toutes. Et moi, c'est James, membre du collectif. Mon intervention, c'est l'alliance ou bien et c'est la similitude qui existe entre pour moi le confinement et le pays lock. Et ben pour le pays lock, si tu sors dans la rue, ben tu vas avoir la peur de ne pas se faire choper par la police ou bien le banditisme soit tabassé par la police et, ou bien même se faire tuer ou agresser par les bandits aussi. Ici, ben, dans le confinement, si tu sors, quoi, ben, tu vas attraper le virus et en même temps, et soit faire choper par la police si tu n'as pas d'attestation et de tout. Et ben, c'est ça. Et puis, ben, on se réfléchit, on se dit, ben, tiens, voilà, on a déjà vécu ça. Et puis, ben, c'était vraiment horrible parce que là, du coup, c'était pas vraiment préparé pour ça et ben, c'était horrible.
Il y a un truc sur le fait que vous avez vécu le confinement en Seine-Saint-Denis aussi, peut-être.
Quoi?
Il y a quelque chose sur le fait que vous avez vécu le confinement à Clichy en Seine-Saint-Denis.
Ah ouais, ben c'était une expérience parce que du coup comme avait dit aussi, ben on n'était pas vraiment habitué à vivre ensemble, c'était juste pour soit pour le travail, les répétitions et puis ben faire de la fête et là maintenant on passe 2 mois et demi ensemble et puis ben et tout le temps on se dit ben quand est-ce qu'on va rentrer et est-ce que tout va tomber dans l'eau, ben qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et ben c'était une expérience vraiment dure parce que là du coup rester à la maison sans rien faire et la routine, parce que la routine est d'autant fatigante que le travail.
Je voulais rajouter quelque chose. Moi, dans mon pays, je vais à toutes les manifestations, surtout avec l'affaire du Petro-Caribé. L'affaire du Petro-Caribé, c'est un accord qui était signé en 2008 avec l'ancien président d'Haïti, qui est René Garcia-Préval. C'était une affaire que Venezuela donnait du pétrole et nous, pour payer, on donne 30% et les 70%, on paye ça pendant 10 ans avec les denrées que nous, en Haïti, on produit. Du coup, il y avait une montée du pétrole en 2017 et que la population, ils s'étaient fâchés et ils ont pris la rue, ils ont bloqué le pays. Mais le pays lock, c'est un autre contexte. Désolé, messieurs, dames. C'est que... le pays loc. C'est nous qui avons choisi de loquer le pays. Mais il n'y avait aucun danger si on sort à la rue, parce qu'il y avait des policiers qui accompagnent aussi ce mouvement. Mais le problème, c'est quand on manifestait. Il y avait à peu près 3 millions de personnes, tu vois, le 17 octobre 2018, qui prenaient la rue de Port-au-Prince sur 12 millions dans tous les pays, tu vois. Il y avait 3 millions de personnes à la rue qui revendiquaient, qui demandaient où est passé l'argent du pétro-caribé. Du coup, on a passé plusieurs mois confinés, loqués, c'est volontairement. C'est nous qui disaient que plus rien ne fonctionne dans le pays. Le transport, tu vois, les marchés, rien ne fonctionne. On vivait à ce qu'on avait. Mais comme on a un gouvernement qui s'en fout de tout, donc on a trouvé aucun résultat jusqu'à présent. On a aussi acheté, comment je peux dire, les piliers ou les leaders de ce mouvement aussi. Tu vois, et maintenant, ils se sont tairs. Et il y a toujours des petits groupes qui essaient de soulever le mouvement jusqu'à présent, mais tu vois, avec le même feeling qu'il y avait auparavant, donc ça s'est éteint. Mais il n'y avait pas du danger pour...
Tu disais qu'il n'y avait pas trop de danger, mais il y a eu beaucoup de victimes dans les manifestations.
Ouais, quand on manifestait aussi, parce que la police protégeait les biens d'autrui, de la bourgeoisie. Nous, il y a des gens dans les manifs qui ont pillé, qui ont volé les magasins aussi, tu vois. Et là, la police est apparue avec de bombes lacrymogènes, et même du coup de feu, des vraies balles aussi, pour essayer de protéger la bourgeoisie du pays. C'était ça le conflit, c'est protéger la bourgeoisie et nous interdire de... Parce qu'on voulait à tout prix monter dans le quartier présidentiel, aller déchoquer le président parce qu'on était vraiment énervés, tu vois. Et du coup, il y a les interventions de la police, parce que... On était très proche du quartier où habite le président pour aller le chercher. Tu vois, donc c'était ça un peu la violence. Mais dans les quartiers, c'était paisible, parce que moi, dans mon quartier, je jouais à la rue, au football. Tu vois, on a monté des barricades. Il y a ce qu'on appelle les barricades aussi. On a bloqué les rues pour que aucune voiture passe. Tu vois, et ils ont aussi... Bon, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'on a envoyé des mercenaires des États-Unis qui sont venus infiltrer le mouvement en tirant sur les manifestants, en pensant que c'est la police aussi. Et quelques années plus tard, là, en 2020, la police a aussi manifesté à leur manière. Ils voulaient avoir une syndicat pour eux, parce qu'ils ont passé plusieurs mois sans payer en Haïti. Et là, du coup, y a le carnaval qui arrivait. Et là, la police, les policiers ont fait une manifestation et ont brûlé tous les stands, tu vois, les stands carnavalesques qu'ils devraient avoir. Donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, la police a aussi mené un mouvement très fort en Haïti.
Merci beaucoup de... la pluie a recommencé, mais on insiste, je crois, ici, sous les parapluies. Je vous remercie à toutes et tous de ce partage un peu entre le moment présent et passé. Je ferai une petite pont vers Elisabeth Lebovici, qui a beaucoup de nous à accompagner ce confinement avec ses écritures sur le blog, qui était un journal intime de confinement, mais toujours un peu comme les historiennes et critiques d'art, avec le regard porté à travers l'archive de l'histoire d'art. Et en même temps, on a voulu remercier aussi Elisabeth pour son travail sur la mémoire et l'histoire du mouvement ACT UP et ses liaisons entre France et États-Unis qu'elle a vécues personnellement et que ce témoignage en tant que ce qu'est la peur survivante affectée nous a aussi permis en quelque sorte d'observer finalement cette pandémie, même si elle est très différente de ce qui s'est passé à l'époque. Voilà, donc je voulais passer.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est très bizarre de parler avec un masque, hein, d'abord. Alors, je vais parler avec mon masque. Oui, les similarités. Tu veux qu'on parle des similarités pour moi, il y a d'abord une différence. Tu vois, tu parles d'ACT UP. Dans cette pandémie du coronavirus, il n'y a absolument pas de parole des malades. Hein. Or, la lutte contre le sida, elle parle d'abord par la voix des gens qui disent « Nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des coupables, nous sommes des personnes qui vivons avec le VIH-Sida ». Et c'est cette parole-là qui a complètement transformé la notion même d'épidémie et même le rapport que nous entretenons. Enfin, ça est, malheureusement, aujourd'hui, il est complètement retourné, ce rapport. Mais enfin, pendant quelques années, ce rapport que nous avions avec la science médicale, avec l'hôpital, avec le soin. Hein. Donc c'est peut-être intéressant de voir, de commencer par cette différence. Peut-être une similarité que pas grand monde n'a noté, c'est que notre histoire de l'épidémie, c'est une histoire complètement occidentale. D'accord ? C'est-à-dire que la légende à la fois dorée et infernale de l'épidémie de sida, elle commence en 81 aux États-Unis et en France, disons, pour aller vite. Comme l'épidémie du coronavirus commence finalement dans les pays occidentaux. Ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on a pu faire pour l'histoire du VIH-Sida, c'est de s'apercevoir qu'en fait c'était une histoire, mais qu'il y en a des tas d'autres et qu'on peut raconter l'histoire très différemment. D'ailleurs, il faut la raconter différemment. Il faut sans arrêt la raconter différemment. C'est ça que je voulais dire dans mon livre. C'est ma version de l'histoire, mais il y a la vôtre. Parce que tout le monde a été affecté. C'est peut-être aussi un lien qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui. L'idée qu'on est tous et toutes affectés, qu'on soit une personne vivant avec le virus ou pas. Alors ça, c'est peut-être une chose qu'on devrait raconter. Mais on aurait pu raconter l'histoire du VIH-Sida de façon tout à fait différente. Alors, ce qui me paraît intéressant, peut-être les différences et les ressemblances, c'est que tout de suite, dans l'épidémie du sida telle qu'on l'a connue, avant qu'elle devienne une pandémie et qu'elle se mondialise, on a transformé des pratiques en personnes. C'est-à-dire que tout d'un coup, un certain type de pratique sexuelle, un certain type de pratique d'usage de drogue, un certain type de pratique dites à risque, sont devenues des personnes. Et vous savez qu'à ce moment-là, ça nous concerne tous et toutes, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été isolées comme désignées finalement à la fois comme des victimes, mais aussi peut-être comme des suspects, des suspectes. Hein. C'était les 4H, hein, ce qu'on a appelé les 4H, les homosexuels, les haïtiens, haïtiennes, les hémophiles et les héroïnomanes, les usagers de drogue par voie intraveineuse. Donc vous voyez comment on transforme des pratiques. Hein, le fait par exemple de se shooter avec des aiguilles, d'utiliser des shoots par voie intraveineuse, devient une catégorie de personnes. Alors ça, c'est peut-être quelque chose à penser dans le cadre de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire du lockdown, du coronavirus. Et ce qui a entraîné effectivement cette séparation entre eux et nous. Et c'est comme ça qu'à ma grande surprise, à ma grande émotion, je dois dire, il y a eu plein de gens qui n'ont absolument pas été concernés par l'épidémie de VIH-Sida. Hein, puisque de toute façon, les personnes étaient désignées. Bon, après, c'est devenu autre chose. Mais par exemple, on aurait pu aussi raconter l'histoire du VIH-Sida en prenant comme groupe témoin les femmes. Or, on n'a pas du tout pris en compte les femmes au début de l'épidémie. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, me semble-t-il. Bon, là aussi, je pense évidemment à ce qu'a produit l'épidémie la pandémie de coronavirus sur les femmes. Précisément, hein, qui ont été au centre de l'épidémie pour des milliards de raisons, parce que c'est beaucoup de femmes et beaucoup de femmes racisées qui étaient en première ligne partout, à l'hôpital, dans les supermarchés, etc. mais aussi parce qu'il y a eu une recrudescence, je crois, malheureusement mondiale, de violences qui ont été faites à l'égard des femmes. Hein, vous voyez comment, quand on raconte une histoire, comme j'ai essayé de la raconter, bah, on essaye de raconter aussi, évidemment, comme le disait Olivier tout à l'heure, les recoins qu'on ne veut pas voir. Hein, c'est-à-dire les recoins que l'histoire ne retient, que l'histoire officielle ne retient pas. Hein, et je crois qu'il faut toujours le faire et qu'il faut le faire aussi aujourd'hui en ce qui concerne le coronavirus. Bon, alors Alors la mobilisation, etc. Bah, je pense que là, c'était ce qui est, il y a deux choses à dire et puis après je vais m'arrêter hein, parce que là ça fait déjà beaucoup. Moi, il y a un article que j'ai absolument adoré, mais je ne sais pas quoi en faire. Hein, je vous le laisse à vous comme ça. Qui a pour moi changé, il y a eu beaucoup de choses qui ont... Ma vie a changé, hein, mais beaucoup de choses qui ont changé ma vie, comme ce que j'ai essayé de faire avec mon blog, c'est ça que je voulais raconter, comment tout d'un coup je prends dans la gueule une œuvre d'art au moment où je la vis, là, en ce moment. Bon. Cet article, j'ai complètement pris dans la gueule, puisque moi, j'ai... Puisqu'il concernait les activistes. C'est un article de Douglas Crimp, qui s'appelle « Mourning, le deuil et le militantisme ».« Mourning and militancy ». Douglas Crimp est un critique d'art, c'est quelqu'un qui a été un historien d'art, un critique d'art, qui, au début des années, au milieu des années 80, a été complètement engagé dans l'activisme. Hein, et il a même dit, les œuvres d'art, ça sert à rien, il faut militer, il faut être activiste, pas militer. Parce que militer, c'est militaire. Donc, il faut mieux être activiste, c'est mieux. Moi, j'aimerais beaucoup penser le passivisme aujourd'hui, ça me plairait beaucoup, dans tous les sens du terme. Oui, le passivisme. Avec l'ambiguïté sonore que ça produit. Hein. Mm-hmm. Bon, passons. Et Douglas Crimp, il dit, voilà, on s'est mobilisé, et je crois que ces derniers jours, on s'est toutes et toutes beaucoup mobilisés, on a été beaucoup dans les manifestations, mais on n'est pas des héros, on n'est pas des héroïnes. Hein. Il y a aussi tout ce qui se passe autour de nous, toute la douleur, tout le deuil qu'on a autour de nous, et ça, on doit non seulement vivre avec, mais on doit aussi penser ça comme une forme de militantisme. C'est-à-dire de penser le autre, le soin, le deuil et le soin à l'égard de soi-même aussi comme une forme de militantisme. J'ai été vachement frappée pendant ce lockdown. Le monde de la culture hein, a beaucoup, beaucoup, beaucoup... s'est mis pour la première fois, en tout cas en France, à un tout petit peu réfléchir sur soi-même. Dans quelles conditions, comme quel putain de merde de conditions on vit. Bon, voilà. Hein? Comment ça se fait qu'on travaille tout le temps hein? Etc, etc. Vous connaissez ça. Et donc, Douglas Crimp, il dit, bah, oui, ça c'est important de l'intégrer comme... dans son activisme, comme activisme. Et puis, il dit une autre chose. Il dit aussi, et ça, personne ne le raconte quand on parle de cet article, il dit aussi, voilà, nous, PD, parce qu'il est PD, il est gay, il est PD, il dit, nous, PD, on doit apprendre dans cette épidémie à renoncer à un certain nombre de choses, et renoncer en particulier à un certain nombre de promiscuités qu'on avait avant et qu'on ne peut plus avoir. Et je pense que cette question de à quoi, bon, c'est aussi ce que les premiers mots de ce que disait Bruno Latour dans un article qui est sorti très vite au moment de l'épidémie. Il faut aussi apprendre à prendre en considération les choses auxquelles qu'on doit laisser tomber. Moi, je pense que c'est très important du point de vue de mon privilège blanc, comme on dit aujourd'hui, de comprendre ça. Voilà. Et puis je m'intéresse.
Merci Elisabeth. J'aimerais bien faire le pont maintenant vers Yala Kisukidi qui est avec nous.
Je suis pas sûr.
On n'est pas sûr. Yala, tu nous entends?
Je suis là.
Ah, super. Génial. Parce qu'on te ne voit plus, mais on t'entend très bien, Yala. J'aimerais bien faire ce pont parce que tu nous as vraiment. Tu as aussi accompagné ce confinement et surtout ce qui se passe dans le déconfinement. Avec ta position et ta parole qui est très claire et très juste en situant ce qui se passe en ce moment par rapport à l'histoire de ce pays. Tu es aussi professeur de philosophie africana, donc c'est quelque chose que tu, à travers ton travail aussi, tu inscris ça dans un environnement qui n'est pas tout à fait, ou qui n'est pas a priori, disons, accueillant. Ou pour qui c'est encore quelque chose qui est soi-disant, au début, disons, d'un discours qui se veut plus inclusif, j'imagine. Et surtout par rapport à cette racisation de société, il y a un déni, en fait, qui est face à ce processus fort qu'on voit et qu'on accompagne avec toute notre attention. On est quand même... ce déni de la part de volonté politique, je dirais, contemporaine, et un déni qui est vraiment violent. Donc je voulais, en fait, voilà, que tu rebondis peut-être sur ça ou sur d'autres questions que tu as pu peut-être entendre.
Oui, merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, Elena. Je sais que c'est un peu triste et froid de passer par l'écran, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et je vous remercie d'excuser cela. Moi, j'étais assez marquée par tout ce qui a été dit et par des personnes que certaines me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, mais je les connais toutes et je connais très bien leur travail. Puis ce sont des choses que je suis et qui et leurs travaux me marquent, en fait. Moi, je pense juste qu'on est dans une société très d'extrême droite et où finalement les idées d'extrême droite sont en train de complètement façonner ce qu'est notre pays, mais de manière, mais dans sa chair en fait, et que dans cette situation de fascisation, on est en train de prendre conscience de la mesure peut-être de pas de notre faiblesse, parce que je pense qu'on a dans les mouvements, ce qui est assez magnifique actuellement, c'est que personne n'a intégré l'idée d'une impuissance. Et personne n'a intégré, en tout cas, les normes oppressives. C'est la raison pour laquelle les gens se lèvent, de toute façon. Mais il est vrai qu'on est dans une situation, je vais le dire de manière un peu républicaine, pour faire plaisir, si jamais il y a des espions, etc., comme ça, on ne pourra pas m'attaquer. On est vraiment dans une situation de rupture du contrat social. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui, quoi qu'on fasse... on appartient à des syndicats, des associations, pour de simples citoyens, etc., ont décidé de nous casser. Et la police, en fait, est devenue le bras armé de ce cassage. Elle est complètement infiltrée par des néo-fascistes. Et on a affaire quand même à des groupes puscules policiers qui manifestent dans les rues de Paris tard le soir et qui ne sont pas inquiétés. Donc ça, il y a quelque chose de l'ordre de la violence, d'une violence qui dit aussi, quand on en vient au débat sur le racisme, et je crois que la parole est nette maintenant, puisque on est quand même dans des folies langagières, on est quand même dans des sophismes dévastateurs qui s'infiltrent sans problème dans le débat. Être antiraciste, en fait, c'est être raciste. Être, enfin, les identitaires se disent universalistes, ou même être antiraciste, c'est être antisémite. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on nous demande d'habiter dans une maison de fous, en fait ? Et comment on fait pour sortir de cette maison de fous ? Et moi, je crois, en fait, que cette espèce de maison de fous qui a été construite, elle est juste là pour dire une chose. Que vous soyez là, ça nous emmerde. On ne veut pas vous voir. Et la totalité des discours auxquels on est confronté aujourd'hui en France disent simplement que les petits éléments négroïdes, bougnoulesques, etc., qui sont dans la République, on veut simplement les écraser, les faire disparaître. Donc on est vraiment, je pense, et je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très radical, hein, mais on est vraiment confronté, je pense, à un discours en France maintenant qui assume nettement son identitarisation et sa défense de la blanchité. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Et dans ce contexte-là, en fait, la question qui se pose toujours, c'est comment exister, non pas pour être reconnu, mais comment exister pour ne pas être broyé par ceux qui préfèrent, comment dirais-je, même assimiler, nous voir, je sais pas, au sol plutôt que simplement respirer, en fait. Donc je ne vois... Je voulais juste ajouter un point aussi sur la question du confinement. Moi, j'ai été très fatiguée, en fait, par la constance des discours de soins, et notamment dans mon milieu universitaire, puisque le maître mot qui était celui du confinement, ça a été celui de la continuité. Il faut tout faire pour que finalement ce qui se présente comme une rupture n'en soit pas une, et que vous continuiez comme si de rien n'était, continuer à être là, à faire des cours, etc. Donc effectivement, continuer d'une certaine manière c'est une manière de montrer qu'on est attentif à l'autre, qu'on est attentif à nos étudiants, qu'on est là pour eux, en fait. Mais le paradoxe, c'est que cette continuité pédagogique qui était réclamée par les institutions s'accompagnait d'un discours du « prenez soin de vous ». Et elle invitait presque assez spontanément à effacer le fait qu'on puisse traverser des drames personnels, puisque l'injonction à la continuité était aussi paradoxalement, comment dirais-je, une pratique d'effacement. La possibilité que le drame intervienne dans votre vie. Et donc moi, j'ai été un peu fatiguée par les injonctions contradictoires posées par les politiques de soins. Ces injonctions contradictoires que j'ai aussi retrouvées dans le monde de l'art dans lequel je suis arrivée parce que je travaille sur la Biennale de Kinshasa, mais avec beaucoup de, j'y suis entrée avec beaucoup de précautions dans ce milieu parce que j'étais plutôt, vu les amis qui sont les miens, confrontée aux violences qu'il peut manifester et à la grande précarité qu'il fait subir à beaucoup de mes proches, amis, artistes. Et l'injonction violente des discours de soins, je l'ai aussi retrouvée dans l'idée qu'on est en train de produire là aussi un discours abstrait sur le soin qui ne s'accompagne pas véritablement de pratiques concrètes. C'est-à-dire que quand une personne souffre ou quand une personne est confrontée, je ne sais pas, à des formes, il y a quelque chose d'assez déréalisant à toujours vouloir, comment dirais-je, défendre le soin, défendre des pratiques alternatives et se rendre compte en fait que dans la manière dont on construit les choses, que ce soit dans des groupes ou des institutions, toutes ces grandes pensées sont toujours lettres mortes. Et cette itération de la violence en fait entre le discours qui s'abstrait dans les pratiques qui le contredisent est extrêmement pour moi difficile à vivre en fait. En tout cas, dans les milieux dans lesquels j'évolue, que ce soit le milieu de l'université ou le monde de l'art. Parce que c'est pas grave d'être en retard, en fait. Et au contraire, on peut être en retard, on peut ne pas rendre les choses à l'heure, etc. Le monde, en tout cas, les mondes dans lesquels on évolue n'évoluent pas parce qu'on est en retard. Et le retard, en fait, moi, j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie de venir à des discours. Alors, je suis racisée. Alors, quand je dis ça, être en retard, alors que je suis une femme noire, je sais comment c'est perçu. Quand je dis, je défends la paresse, je hais le travail. Et là aussi, en tant que femme noire, je sais comment c'est perçu. Ah oui, vous, les nègres, décidément, dès qu'on vous met au travail, etc. Mais je défends un discours sur la paresse et le retard. On a besoin de vivre. Et pour vivre, être vivant, c'est être en retard, constamment. Penser, c'est être en retard. On pense toujours après. On se plante toujours quand on est pris dans le moment présent. Et donc, moi, j'aimerais bien voir, politiquement, je suis vraiment amenée à penser ça. Je veux être en retard. Et défendre ma paresse, en fait, comme geste politique.
Je voulais juste rebondir, c'est très juste ce que tu dis. Donc, parce qu'on a commencé notre initiative avec Natacha à partir de cette question. Donc, ce fameux rester chez toi est quand même un privilège. Donc, c'est un privilège. Et nous sommes chanceuses donc, de l'avoir, tandis que les autres n'en ont pas. Donc, il y a ce soi-disant ce travail nécessaire pour la société. Et donc, on regardait aussi ce que se passe dans l'art, donc comment les gens justement donc chantent sur les balcons, c'est bien, mais par contre comment ce fameux soin, donc on a commencé à chercher les initiatives, en fait des pratiques qui justement dirigeaient ce fameux soin vers l'autrui, pas vers soi-même, et c'était quelque part le point de départ pour nous très important. Et donc on a réfléchir où on a commencé par cette notion de care parce que justement à cause de sa lenteur, parce que care c'est quelque chose qui est contre-moderniste quelque part, donc qui défie en fait cette accélération, cette croissance, en fait on peut pas de prendre soin de quelqu'un en accéléré parce que ça ferait peur quand même. Donc c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose de répétitif, et en fait c'est ça aussi, donc quelque chose de donc un engagement, parce que tisser les liens affectifs ça prend du temps également. Donc voilà, donc on voulait aller là-bas aussi, et c'était ça notre point de départ. Et dans les pratiques d'artistique, aussi dans les pratiques d'exposition, parce que nous sommes quand même deux commissaires. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Comment on change? Comment on change les protocoles, en fait? Et comment on invente autre chose, hein, tout simplement, également avec le public, parce que le public est quand même important et dans le monde de l'art. Donc le commissaire, donc le job de curator, c'est de take care des œuvres, mais pas vraiment du public, parce que c'est pas de dans le description en fait de job description. Donc le public. Hein. Et c'est à ce moment, donc je voudrais passer le micro à Émilie Villette, qui est directrice de Cadist. Et Cadiz est un lieu d'art extraordinaire, donc qui est voisin ici, donc de ce lieu, et qui travaille énormément justement avec les questions du public.
Merci pour l'invitation, merci pour la conversation à tous. C'est un peu dur de revenir au sujet de l'exposition après tous ces témoignages aussi de cette période qu'on a tous vécu de manière différente avec ces questions du soin en interne et en externe. Effectivement, les institutions, elles sont très visées et concernées par ce qui se passe en ce moment à plusieurs points de vue. Elles sont un peu forcées de se regarder dans le miroir, ce qui est important, et d'adresser la question du public et de sa diversité. Et puis, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Yala, la question de la productivité, je pense, a été très... très sensible pendant toute cette période. C'est ce qu'a évoqué aussi nos collègues collectifs tout à l'heure. La gestion du temps a été vraiment très bizarre. On m'a proposé de venir parler d'une exposition un peu lointaine. Alors, je ne sais pas très bien comment rallier le fil maintenant. Je pense qu'on est plusieurs institutions à avoir vécu des situations d'exposition fermées avant d'être ouvertes. Pendant cette période, il se trouve que nous, ici à Paris, on est en travaux. Donc on était déjà dans une période de non-exposition, non-ouverture au public. Donc finalement, on n'était pas... ça ne nous a pas tellement changé. Mais très rapidement, effectivement, mes collègues aux États-Unis, parce que Cadist est aussi basé à San Francisco, qui a subi un confinement un peu plus tardif que nous, mais plus prolongé. Ils ont monté une exposition d'une artiste coréenne, Jamin Cha, qui n'est toujours pas ouverte à l'heure actuelle et qui est une recherche autour de, disons, des questions de santé mentale en relation avec le développement urbain. Donc on se dit que quand cette exposition va ouvrir, il va falloir aussi la donner au public avec tout un soin, justement, qui permet de prendre en compte le contexte actuel. Donc, pour moi, se pose aussi la question, justement, pour rejoindre votre point sur la médiation, en fait. Comment intégrer aussi dans les discours, sans avoir l'air d'être opportuniste aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de... On récupère aussi beaucoup ce qui est dans l'air. Donc, c'est très difficile aussi d'adresser les questions sans... en ayant le temps, justement, de les amener correctement. Mais l'exposition pour laquelle on m'avait demandé d'intervenir est une exposition encore plus lointaine qui est au Japon et qui, pour le coup, a ouvert plus de 2 mois après l'ouverture prévue, sans vernissage, bien entendu. C'est une exposition qui adressait justement la question de la résilience des objets, parce que c'était des projets d'artistes qui montraient ensemble, adressaient un peu l'enchevêtrement des phénomènes que l'on connaît, qu'ils soient sociétaux, historiques et écologiques. Et en fait, la manière dont toutes les choses, tous ces axes sont enchevêtrés, l'exposition s'appelle « Les choses enchevêtrées » en français, et donc on a dans l'exposition un ensemble d'œuvres qui sont liées soit à des recherches sur les questions postcoloniales, mais aussi tout un travail d'un artiste qu'on avait accueilli à Paris en résidence, Hikaru Fuji, un artiste japonais, qui a suivi toute la crise après la catastrophe de Fukushima et qui avait montré ici à Paris une exposition avec une partie du fruit de ses recherches, où il avait suivi notamment un musée qui avait dû fermer, un musée municipal dans la zone contaminée, qui avait dû fermer, évidemment, lors des événements, mais qui s'était auto-organisé pour étudier les objets de sa collection et déterminer les objets qui étaient contaminés ou pas, pour sauver ces objets, en fait. parce que sinon le musée serait resté à l'abandon. Et donc c'est effectivement intéressant aujourd'hui de retrouver ce projet sur la question de la contamination. C'est une sorte de hasard un peu étrange, donc un an après. Et donc pendant que l'exposition était fermée au public au Japon, ce même artiste a filmé l'exposition vidée de son public. Donc c'est un très beau film. On navigue dans le musée, c'est un grand musée, c'est le MOT à Tokyo. Et on est dans l'exposition voilà, inhabitée. Elisabeth parlait tout à l'heure des vues d'exposition inhabitées, c'est un peu le même effet. Et là, donc, ça c'est plus un document qu'une œuvre. Dans l'exposition, il présente un des films issus de sa recherche autour de Futaba, dans la zone contaminée, mais aussi des objets de ce fameux musée, qui sont des objets qui ont été testés, qui ont été sauvés, qui n'étaient a priori pas contaminés, et qui sont présentés dans le musée d'art contemporain comme faisant partie du projet de l'artiste, avec l'accord du musée municipal, qui est plutôt un musée ethnographique ou voilà, d'histoire un peu locale. Et juste pour l'anecdote, pour finir là-dessus, aussi sur la question de l'angoisse, je pense, et des émotions qui sont très exacerbées en ce moment. Lors de la réouverture du musée, il y a un visiteur qui a paniqué, en fait, en arrivant devant ces objets. Il a eu très peur, en fait, alors qu'il sortait, enfin, il sortait du confinement, justement, au Japon. Il a eu très peur, en fait, d'être contaminé par ces objets et leur potentielle radioactivité. Et il a fait remonter cette information auprès du musée, auprès du gouvernement municipal, parce que c'est un musée qui dépend du gouvernement de la ville de Tokyo. Ça a provoqué évidemment une réaction du musée qui a fait un affichage pour rassurer le public. Mais ça a surtout mis en doute aussi l'autre musée, le musée provincial de Futaba, qui, lui, avait fait toute cette étude et qui, quelque part, avait garanti le safety, la sécurité de ces objets. Mais voilà, toute cette question de l'angoisse a été reportée depuis le contexte du virus sur ces objets, tout en rappelant le trauma, en fait, qu'avaient vécu les Japonais et dont ils sont toujours pas sortis quelque part. Donc voilà, je voulais juste amener cette question de l'objet un peu chargé, effectivement, qui fait résonance aussi à l'exposition qui est à côté de nous.
Merci beaucoup. Je vais peut-être juste essayer de lier, comme on a eu des propositions qui se relient, mais qui parlent aussi de différents lieux. Je pense que s'il y a quelque chose de très intéressant dans la médiation et remédiation, et c'est quelque chose là qui peut être porté quand on parle, comme le début de ce débat était vraiment de parler qu'est-ce qui se passe aussi dans les institutions d'art et en France, comme vous l'avez remarqué et dit clairement, il y a, surtout par les institutions d'art, il y a un manque de réactivité ou au moins on ne sent pas qu'il y a une volonté très immédiate d'en parler de la situation actuelle. Il me semble que dans cet rapport de médiation avec lequel on comprend en fait le travail aussi avec le public, qu'il y a quelque chose à remédier, il y a quelque chose à changer. On va laisser passer le moto. Bonjour. D'une chose, et puis il y a aussi cette notion très intéressante de contamination. Il y a une peur d'être contaminé par une partie de notre société, de ce qui se passe. C'est une sorte de... pas seulement qu'il y a un déni, mais c'est vraiment une sorte de peur de se mêler, de peur de se contaminer par ça. Or, c'est inévitable. Donc, en fait, ce qui se produit, c'est qu'il y a des événements qui sont là pour transformer la société qui devrait être un peu plus, finalement, un peu plus ouverte sur son passé. et qui d'un seul coup décide que bah non, on va pas parler de l'histoire, on va pas parler des monuments, on ne veut pas en fait toucher ça. Donc en fait c'est voilà, je voulais juste remener peut-être un peu à sa médiation. Merci, Émilie. Olivier, si tu veux.
Oui, peut-être dans la continuité de ce que tu dis pour regarder les choses à partir d'une expérience qui va être, comme dans les pandémies ou des moments de rupture, qui finalement nous permettent de regarder paradoxalement ce qui n'est pas la rupture, ce qui est censé être le normal. Et... moi, je trouve que ça montre une chose que moi, j'ai toujours ressentie en travaillant dans le champ de l'art contemporain, c'est que c'est une relation sanitaire au réel, en fait. C'est-à-dire, tu veux bien extraire du réel des choses, mais tu vas aller faire une espèce de filtre qui va les transformer en objets sanitaires. Et moi, qui suis quelqu'un qui a toujours été lié aux luttes et à la fois à mon métier de curateur et d'auteur, j'ai toujours eu l'impression, en fait, que la chose pour de vrai n'intéresse pas, en fait. Une fois qu'elle passe par une espèce de une succession de nettoyage, comme si on passait dans des espèces de salles avec des douches sanitaires pour arriver dans le lieu d'exposition. Et donc, elle est morte, quoi. Et en fait, le fait qu'on doive la transformer en quelque chose d'autre, ça, c'est pour moi le geste de l'art. Donc ça, OK. Mais cette transformation-là, elle finit toujours par l'amener paradoxalement un peu au même endroit. Et ça, ça semble être normal. Parce que pour moi, qu'il y ait une transformation des événements réels pour rentrer dans un vocabulaire de l'expérience esthétique et de la pensée, oui, ça, c'est le sens même de ce qu'est l'art. Le dessin d'une situation n'est pas la situation, c'est le dessin d'une situation. Cependant, en fait, cette transformation-là, elle a tranquillement fini par devenir une forme de catégorie de transformation dont moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était quand même relativement homogène, c'est-à-dire notamment... qui avait un espèce de contrat, presque un peu sécuritaire. Vous inquiétez pas, rien peut se passer, quoi. En fait, si vous entrez ici, rien ne peut se passer. Ouais. Je vois qu'Elisabeth n'est pas d'accord. Vas-y, mais vas-y, Elisabeth, vas-y, je t'en prie.
Je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les objets, c'est leur vie après. C'est-à-dire, je ne pense pas que les objets soient sanitarisés, réfugiés dans un lieu. Je pense qu'ils passent par plein... Ils ont une vie. Une vie magique, une détérioration. Quand tu suis des objets, tu t'aperçois qu'ils ont bougé, ils ont été coupés, on leur a fait violence, on les a transformés, on leur a mis des cadres, on leur a enlevé des cadres, on les a mis en réserve, on les a mis loin, on les a mis près, ils ont été abîmés, il y a eu un coup de pied qu'on leur a foutu dedans, ils ont été restaurés. Et je ne parle que de ce que je connais, c'est-à-dire chaque objet qu'on regarde, en fait... il n'est pas dans une position neutre. Enfin, je veux dire, les objets réagissent, ils subissent des trucs. Donc, moi, je vois pas les choses comme ça. Et je pense que c'est nous, critiques d'art, peut-être, dans notre vision des choses, qui ne parlons que du moment où les objets sont exposés ou fabriqués, mais pas du tout de tout ce qui leur arrive. À mesure qu'il leur arrive quelque chose.
Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup, je vais le dire autrement, alors. Je pense qu'en fait, c'est le moment même de ce qui est considéré comme expérience de l'art, et comme toi, moi, je suis quelqu'un qui écrit, et que plus mon travail a avancé, plus mon travail curatorial s'est transformé en travail d'écriture. Et donc, je considère que je ne suis plus curateur au sens d'art, mais je continue à faire de l'art. C'est-à-dire que tu retraces, tu enquêtes, encore une fois, à l'endroit qui ne devrait pas être montré, qui est quelque part en dehors de l'expérience du regard qu'on propose et qui dit « mais ça, c'est quoi ?»« Ben non, mais ça, il ne faut pas regarder, c'est ça qu'il faut regarder. » Et ce « ça qu'il ne faut pas regarder », c'est effectivement une part de l'objet, mais j'aimerais que ce soit une part de l'expérience. C'est-à-dire que la biographie de l'objet peut-elle devenir une partie de l'expérience ? Et c'est là qu'effectivement, autant ceux qui vont commenter, écrire de toutes les manières qu'on peut imaginer, ou ceux qui vont montrer, qui est pour moi aussi une manière d'écrire, sont aussi en situation de dire quelle expérience on propose. Est-ce que c'est un segment dans lequel rien ne peut se passer, ou au contraire, un segment trouble où tout s'est passé autour, avant, après, etc. Mais ça, je pense que là, moi, je parlais de comment est mis en scène, en mots et en récit, l'expérience de l'art aujourd'hui, quelles promesses on te propose. Et moi, je vais plus loin que la question du spectateur, parce que j'étais directeur d'une institution. À quel métier on engage des jeunes gens ? Moi, j'ai été enseignant en école d'art, j'ai été directeur d'institution. qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quoi. Et quel niveau, j'ai envie de dire, d'aventure on peut promettre. Et moi, je vois que les étudiants, là, la promesse, c'est quand même une promesse qui est basée sur un truc un peu safe, quoi. Tu auras une fiche de poste et il faut que tu t'engages à la vraiment fiche de poste. Non, mais il faut quand même en parler parce que ça fait partie de l'administration de comment on fait de l'art aujourd'hui, du point de vue institutionnel, avec l'enjeu de il faut vraiment me définir ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je vais prendre un exemple qui est pour moi très, très simple. Dans le travail, en fait, d'un centre d'art basé en Seine-Saint-Denis, j'avais introduit, en fait, l'idée, sans la mettre dans la fiche de poste, de toutes les équipes dites de médiation, qu'on devait notamment faire des barbecues avec les habitants. Ça ne m'a pas mené au prud'homme, mais ça aurait pu. Non, mais c'est hyper... Moi, à un moment donné, c'est devenu une pratique du lieu, et progressivement, et la victoire du truc, c'est que quand les gens s'en emparent d'employé en employé par génération, ça devient même une marque de fabrique. Moi, je connais des gens qui ont eu de très bons postes en racontant ce qu'ils avaient fait à l'époque, mais qui, franchement, quand j'en ai parlé au début, ils disent « J'ai deux masters, là. Je ne sais pas d'où tu sors. Toi, là, on n'est pas... Toi, tu as écouté 3 albums de MTM, mais moi, j'ai 2 masters, donc tu ne me dis pas que je vais aller faire des barbecues. » Les mêmes gens qui disent « Mais moi, vous savez, j'ai fait des barbecues avec des gens dans les quartiers, quoi. » Et donc, c'est les mêmes gens, mais c'est juste quelques années plus tard, quoi. Et donc, je veux dire, introduire même l'idée que l'expérience à laquelle on invite comporte énormément de micro-expériences qui débordent. Moi, je dis toujours, en fait, à un moment donné, c'est quand ça déborde de ce qu'on croit être venu faire, c'est là qu'il se passe quelque chose d'intéressant et on peut revenir à son métier après. Et moi, je reproche effectivement à l'institution d'art de cette tenue à border l'expérience dans quelque chose qui est quand même un peu propre, quoi. Et qu'effectivement, faire du barbecue, jouer au ping-pong avec les habitants, ça fait partie du travail d'un centre d'art installé en banlieue, ça, pour moi, c'est clair. Mais pas du travail juste de médiation et de contrôle social. Ça fait partie de la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est des métiers où quand même on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et c'est ça qui fait que ces métiers sont intéressants. C'est quand même des métiers, on a la chance, c'est une chance. On ne sait quand même pas trop ce qu'on est en train de faire. Non, tu vois, on se dit toujours, là c'est limite quoi. On est toujours un peu dans un truc, toi tu fais quoi dans la vie? Tu vois, c'est pas non plus un truc, un plombier, lui il dit, voilà, moi je répare un tuyau, ça marche après. Un chauffeur de bus, il sait d'où le bus part. Nous, on dit, bon, on essaye de faire là, mais ça a été des fois un peu plus ici, parfois un peu plus là. Et ce qu'on a fait de mieux, c'est là, quoi. C'est pas à cet endroit-là. Et ça, c'est quand même une chose, moi, dans mon expérience de directeur de lieu, traduire le fait que les inattendus, les accidents sont partis quand même du cœur du métier, sans rire, quoi. Tu frôles les prud'hommes à chaque fois que tu dis ça, quoi. C'est officiellement, t'as quand même pas droit de dire ça, en fait. Et ça, c'est une réalité. Et du coup, si tu veux rester dans la case de la fiche de poste, moi, je l'ai toujours dit et je l'assume publiquement, c'est un métier de merde, alors. Non, mais c'est un métier de merde, sinon, je veux dire, franchement, qui veut faire travailler dans l'art contemporain en faisant vraiment ce que sont les fiches de poste? Putain, je me dis, t'as vraiment envie de faire de la médiation culturelle comme ça? Moi, ça me faisait chier pour eux. Je me dis, t'as envie de faire ça? Parce que franchement, on s'est fait ça toute la journée, ou d'un moment donné, c'est à mourir d'ennui. Moi, je crois que c'est des vrais métiers de merde qu'on peut transformer en métiers passionnants. Mais il faut quand même le concéder que c'est quand même pas un chouette métier, quoi. Parce que ça, on part d'un priori qui est faux, quoi. Faux. Je veux dire, franchement, moi, des trucs, j'aurais jamais envie de faire ça de ma vie. Mais en le tordant, on le rend passionnant parce qu'on le fait, on le bousille un peu, quoi. On le pratique un peu en le rendant intéressant. Mais après, c'est désolé, il y a des trucs. Cachez pas. Je veux dire, faire le gendarme des œuvres d'art, c'est pas très intéressant, quoi.
Juste pour rebondir par rapport à la politique des lieux, des petits lieux d'art. Tania, tu voulais dire quelque chose par rapport à une plano?
Je pense que je vais dire des énormités, mais que c'est pas grave. Je pense qu'on est un État très centralisé et que de plus en plus, enfin, il y a Beaubourg, etc., etc. Et que si on veut être dans le local, il faut vraiment revendiquer de l'argent public pour les lieux. Et le revendiquer très fort, et que ça sera un moyen juste financier de faire de l'art autrement. Enfin, par exemple, nous, on a une asso, on est tous bénévoles, on est artistes à côté, et on, par exemple, c'est grâce au confinement qu'on peut demander des subventions, sinon on n'était éligible à aucune, et on ne les aura peut-être sûrement pas. Mais du coup, il y a un vrai manque au niveau des territoires, je pense. Voilà.
Je vais réagir de manière un peu peut-être confuse, dans le sens où Il y a plusieurs choses qui résonnent par rapport à tous les sujets qui ont été abordés et par rapport à différentes casquettes et différents rôles que je peux avoir moi, dans le sens où je suis plasticienne, j'ai été critique d'art pendant assez longtemps. Je viens de terminer il y a quelques mois la présidence de l'association DOC, qui est un lieu qui est à côté de la place des Fêtes, qui est un squat. Et je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle le Turfu, dont l'origine a été de mettre en commun et de trouver justement des protocoles de, disons, de circulation des pratiques entre l'art contemporain et le spectacle vivant, parce que c'est aussi partie du constat que, en fait, c'est des milieux qui ont beaucoup de choses en commun, mais qui, en fait, dans le concret, dans le quotidien, sont quand même très séparés. Alors qu'il y a des problématiques qui sont intéressantes à croiser, en tout cas. Donc voilà, avec tous ces éléments en tête, je vais quand même rebondir sur ce que tu disais. J'ai moi la sensation, et je fais le lien aussi avec quelque chose que tu as dit qui m'a marqué sur la responsabilité, ou en tout cas le domaine d'application du commissaire d'exposition. Et moi, j'ai la sensation, en tout cas, qu'il y a une vraie responsabilité politique sur la question de la transmission du discours et de la circulation du sens des œuvres qui est entre les mains du commissaire d'exposition aujourd'hui. Il l'est aussi dans les mains du critique d'art d'une autre manière, mais en tout cas, en tant que proposition et en tant que de manière d'activer aussi les œuvres dans les espaces et de les mettre en... de donner la possibilité au public de s'en saisir et de les appréhender. Pour moi, il y a quand même vraiment quelque chose qui est plus large et plus ouvert. Et je pense que parfois, c'est bien que chacun puisse avoir un rôle qui est clair. Et il y a aussi parfois des problèmes de confusion par rapport au champ d'action de chacun. Mais je pense aussi que c'est super important, et là je te rejoins vachement sur cette question aussi, de trouver des moyens de sortir des cadres et de faire péter tout ça. Et je sais qu'à DOC, la question de savoir comment on ouvre au quartier, c'est une question qui est super importante. Et après 5 ans, on n'a quand même toujours pas réussi, parce qu'en fait, on est sans arrêt confronté à des problèmes de bruit. On est sans arrêt confronté à des trucs qui sont hyper triviaux et qui font qu'on a beau mettre sans arrêt sur le tapis la question de ouvrir, bah en fait, ça, je reviens aussi à ce que tu disais, en fait, nous, on a des expos, évidemment, tout est bénévole, on n'a pas de budget, de fonctionnement, etc. Et en fait, on a des expos qui sont fermées parce qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir le lieu, qu'on n'a pas la possibilité d'accueillir les publics. Et en fait, on est sans arrêt confronté à des problèmes de mise en œuvre qui sont vraiment extrêmement pratique, en fait. Et je pense que ce que tu dis par rapport au fait d'avoir la sensation d'avoir des objets morts, moi, je peux le ressentir quand je suis dans des... Effectivement, on revient sur le White Cube, mais quand on est dans des espaces où, en fait, les objets sont... deviennent inanimés aussi parce que, et là je rejoins ce que tu disais sur l'idée d'avoir des douches et des espèces de filtres comme ça, qui font que, en fait, ça demande du temps d'entrer dans le, d'appréhender des œuvres d'art quand c'est des œuvres d'art qui sont à la fois, qui ont une puissance esthétique et qui sont aussi chargées d'une forme de pensée, sans rentrer dans le champ vraiment de l'action magique, mais et que ça nécessite un accompagnement si on veut pas se retrouver sans arrêt à s'adresser aux mêmes personnes. Et c'est un travail phénoménal, en fait. C'est un temps fou de trouver les moyens de créer des ponts, de trouver les moyens, on va revenir sur les questions de langage, mais de créer aussi, pour moi, la responsabilité, elle est aussi sur une question qui est propre au langage, c'est de la transcription. En fait, on fait tout ce que de la transcription, que ce soit dans le travail artistique où il est question de transformer le réel pour le transformer en objet et en art, et de la même manière, de l'autre côté, pour partir d'un objet et transcrire pour quelqu'un qui n'a pas forcément tous les codes le réel qui est dans cet objet, dans ce geste, dans cette pensée. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question, effectivement, de l'action ensemble, de à la fois réarticuler les choses, retrouver un peu de marge de manœuvre aussi dans la façon dont tout ça circule, et à la fois je pense qu'il y a une vraie question d'autonomie financière, ça c'est évident, enfin, on tombe toujours sur les mêmes questions, mais Effectivement, je pense que la question politique de l'affranchissement et de la mise en commun, elle passe par des modèles alternatifs où il est possible d'expérimenter des nouveaux protocoles.
On a une petite intervention de camion, merci. Je vais juste demander, Yala, tu voulais, juste pour te demander si tu voulais encore ajouter quelque chose.
Non, enfin, juste peut-être une phrase, mais ça m'amène, ça m'entraîne sur des espaces dans lesquels j'ai pas envie de trop parler, parce qu'on est dans un travail, je te l'avais dit, Natacha, je suis dans un travail de co-curation sur la biennale de Kinshasa. Et c'est vrai que, on en a déjà parlé, je suis assez sensible à ce qui vient d'être dit, puisque un des enjeux, on travaille dans une ville qui est la ville où vit ma famille, une partie de ma famille, mais c'est aussi une ville coloniale. Et il est vrai que tous les lieux d'exposition de l'art contemporain sont des lieux qui se situent dans une commune qu'on appelle la République de la Gombe, et qui est le centre colonial de la ville, où vivent les métis, les blancs, etc., les expatriés, et où se trouvent toutes les institutions d'art. Moi, ma famille vit dans ce que les Belges ont appelé la cité indigène, donc là où il y a tous les Africains, les Congolais. Et c'est vrai que la question qui se pose pour nous, c'est vraiment d'effectuer une biennale, non pas en dehors des institutions de la ville, mais une biennale qui appréhende toutes les réalités de la ville de Kinshasa. Et la situation du confinement fait que là, les frontières sont fermées, on peut pas y aller, en fait. Font que l'ambition politique, parce que c'est une ambition politique et sociale qui était la nôtre pour cette biennale, est vraiment, un point sur lequel on ne veut pas céder, est vraiment malmené et maltraité donc par la situation dans laquelle on vit, puisqu'on ne peut pas circuler, en fait. Et le prix, en tout cas, de cette biennale, si cette biennale ne se fait que dans le centre de Kinshasa, ce sera objectivement un échec. Et c'est vrai que ce temps, cette manière de réagir, la capacité peut-être à juste mobiliser de l'argent pour pouvoir, à un moment, faire face à cet imprévisible qui peut ruiner complètement le sens qu'on donne à nos projets, est assez difficile à gérer, en fait. C'est juste le point que je voulais ajouter. Au regard d'une réflexion. Et après, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Olivier, quand tu disais « on ne sait pas ce qu'on fait ». Au sens où, moi, j'ai du mal à me dire curatrice, parce que c'est un truc qui m'a un peu tombé sur la figure. Et j'ai toujours aimé regarder ce que faisaient les artistes. Et j'ai juste accepté cette biennale, parce que c'est ma ville préférée au monde, Kinshasa, et que je n'ai jamais retournée. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée que tu as dit sur « on ne sait pas toujours ce qu'on fait, en fait ». Et l'idée de « pas au sens de... » on peut s'autoriser quelque chose comme une désinvolture. Et c'est vrai que dans ce à quoi j'ai été confrontée, et je le dis avec toute la naïveté, toute l'humilité qui est la mienne, puisque ce sont des terrains que je commence à explorer, j'ai pas du tout de parole surplombante, donc je découvre énormément de choses. Je suis quand même frappée par des formes d'esprit de sérieux, par les injonctions policières quand même, qui sont assez constantes, en fait, dans ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait ne pas faire, ce que c'est que être un bon curateur, ce que c'est que ne pas être un bon curateur. Alors que, depuis que je suis entrée dans cette expérience de la biennale, et avec le contexte mondial, que ce soit celui des violences raciales qui commencent à être nommées en France, ou celui de la pandémie, très objectivement, depuis que j'ai commencé ce travail de curation, je navigue complètement à vue. Et je veux continuer à naviguer à vue. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez important que de maintenir, en tout cas, cette, je sais pas, appelons-le liberté, si c'est le terme à choisir, mais dans le fait que je suis pas sûre de savoir vraiment ce que je fais, en fait. Et quand ce sera terminé, si ça se termine un jour, parce que là non plus, je sais pas si ce sont des processus qui se terminent, je ne sais pas non plus comment va cette continuité va s'appréhender ou va pouvoir être pensée.
Je peux juste rajouter une chose pour ça, parce que du coup, on va on essaie de continuer ce fil pour peut-être qu'il n'y a pas de malentendu ou alors qu'il y en a un peu plus, je ne sais pas. Mais on ne peut pas complètement nier, en tout cas moi, en ayant été, en ayant pratiqué, une pratique curatoriale dans le champ de l'art contemporain pendant une vingtaine d'années, on ne peut pas non plus nier qu'elles ne se sont pas formées comme tout champ constitué avec un ensemble de références et de référents de ce qu'il faut faire bien ou considérant donc qu'il y a non pas il y a une seule manière de faire, parce qu'il y a plusieurs, mais disons qu'il y a une certaine manière de bien faire. Moi, j'étais quand même au CA du réseau Tram. Désolé, quand moi, tu as grandi en banlieue parisienne, étant dans les quartiers, être dans le réseau Tram, c'est quand même un moment. J'ai beaucoup d'amitié dans plusieurs personnes dans ce réseau, au demeurant. Mais ça a été pour moi un écart par rapport à d'où je viens qui est assez important quand même. Est-ce que ça, c'est possible de l'évoquer dans une... Moi, je n'ai jamais fait à Tram. Je n'ai jamais osé dire, mais en fait, être avec vous en réunion, ça fait vraiment loin par rapport à d'où je viens. Et qu'il y a toujours, de toute façon, un principe de respectabilité et je dirais d'auto-domestication. Donc, c'est aussi une autocritique hein, de ce point de vue-là, de respecter certains codes d'un métier jusqu'à réussir à les faire exploser d'une manière qui t'intéresse. Donc, ce n'est pas tant les faire exploser par principe, parce que ce n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. C'est contre ce qu'on accepte de la violence aussi. Hein. Il y a aussi des gens qui vont dans les luttes, à un moment donné, trouver comment ils vont riposter, comment ils vont répondre à la violence qu'ils subissent chez eux, dans les foyers, dans le travail. Tu trouves le chemin pour trouver comment on répond, c'est se défendre de Elsa Dorlin, que j'aime bien, comment on se défend, est toujours assez personnel. Tu peux subir très longtemps quelque chose, et à un moment donné, tu te dis, là, je trouve comment répondre à ça. Et je trouve qu'il y a quand même une micro-violence professionnelle dans le champ de l'art contemporain, dans la manière dont les choses devraient se passer. Et ce n'est pas vouloir ne pas les faire comme elles devraient se passer, mais c'est revenir à soi, se dire, en fait, moi, je ne pense pas, parce que je crois qu'on peut aussi faire ça. Et tu ne le fais pas contre quelque chose, mais tu le fais dans un engagement. Et donc, moi, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est de définir une pratique, et là, ça rejoint quelque chose qu'Elisabeth a écrit par rapport à la question du sida, de travailler comme personne affectée. Quelqu'un qui va être affecté de certaines choses en particulier. Et pour moi, on est toujours affecté par rapport au corps qu'on a, par rapport à l'histoire qu'on a, par rapport à voilà, tout un ensemble de choses. Donc cette affectation est quand même quelque chose qui est à la fois un positionnement politique de sensibilité par rapport au monde, mais qu'on ne contrôle pas totalement. Parce qu'on va être affecté aussi par rapport à notre histoire personnelle. Ça va être aussi une forme de performativité de son métier. Et ça, je trouve que quand même, pouvoir dire, voilà, moi, je fais ce métier à partir de cette situation d'affectation. Je prends un exemple qui va vous paraître très simple. Pas simple, il est très compliqué, mais il est très facile à comprendre. Quand en 2015, il y a les attentats à Paris, moi, je me rappelle, je me retrouve avec toute notre équipe autour de la table à Kiasma. Tout le monde est très touché. Mais moi, je suis le seul à avoir grandi dans un des quartiers d'un des terroristes. Et donc tout le monde est affecté de la même manière. Et puis moi, je suis emmerdé parce que je me dis, ils vont prendre cher avec Koulibaly à la Grande Borne. Ça va vraiment être la galère pour eux. C'est déjà la galère. Et là, il y a un des terroristes qui vient de la Grande Borne. Tu crois que je peux adresser ça à mon équipe à ce moment-là? Pourtant, je le pense. Intimement, je le pense. Je me dis, ça m'emmerde parce qu'un des terroristes est un homme noir qui a grandi dans un quartier que je connais bien, où déjà la police nous massacre. Et ça va rajouter une couche. Et tout le monde discute des cafés où ils connaissent quelqu'un, moi des cafés où je ne vais pas, où ils connaissent quelqu'un qui a été peut-être blessé, affecté. Et donc, tu es forcé d'être dans une émotion qui n'est pas la tienne. Moi, j'y ai beaucoup repensé à ça. Hein. J'écris dessus, je me suis dit, pourquoi à ce moment-là, tu n'as pas essayé de dire, il y a une deuxième perspective. Il y a la perspective, tu vois, moi, les frères Kouachi, dont ils ont quand même vu leur mère prostituée, mort devant eux, enfant, ils vont avoir produit un massacre. Et j'en donne aucune excuse, mais il y a une expérience là. Moi, quand je la lis, je me dis, bon, dans ma vie, est-ce que je suis plus proche des gens qui prennent le café là-bas que de Hamidi Coulibaly? Non, Hamidi Coulibaly, il est beaucoup plus proche que moi, biographiquement, que des gens qui se sont fait. Et c'est pas trouver une excuse, mais c'est rappeler une perspective possible qui enrichit le fait qu'on est ensemble avec toujours des points de vue qui doivent nourrir ce moment d'être ensemble.
Alors, j'avais envie de rajouter l'expérience contraire. J'ai été vachement frappée par une réflexion d'une femme qui regarde des poèmes lyriques et qui dit « Comment ça se fait que dans un poème, quand quelqu'un dit « je t'aime », tout d'un coup, quand tu lis ce poème, tu vas être affectée par ça ?» Bon, c'est une question. Je pense qu'elle n'est pas inintéressante dans ce contexte. Et la deuxième, c'est l'envers. Alors, mes copines de Fierce Pussy, ça veut dire « chatte énervée ». C'est un groupe de lesbiennes américaines qui s'est formé dans la mouvance de la lutte contre le sida, parce qu'on ne parlait pas du tout des lesbiennes, dans aucun sens. Et donc, les revoilà, 10 ans après, à refaire une expo dans un espace d'art contemporain,
hyper bien, formidable. C'est un endroit, c'est une, la librairie alternative de New York qui s'appelle Printed Matter. Et alors, la série que Fierce Pussy veut montrer sur les fenêtres de Printed Matter, c'est une série de, où on reprend tous les mots qui nous sont adressés, des insultes, et on dit, bah, moi aussi, moi j'en suis une. Je suis une gouine, une gougnasse, une etc., etc., une homasse, une camionneuse, une brouteuse de chattes, etc. Et j'en suis fière. Et la série d'affiches, elle disait non seulement « et j'en suis fière », mais « et vous aussi ». Et toi aussi. Et toi aussi. En anglais, c'est vachement ambigu. Et donc, les voilà, bazardés toutes leurs affiches sur les vitrines de cet espace d'art contemporain. Et ben, dans cet espace, la librairie d'art contemporain, où tout le monde est vachement cool, où il n'y a pas de problème, où, hein, on leur dit « quand même, il y a des gens qui passent dans la rue qui vont peut-être se sentir mal. » Se sentir insulté, ou se sentir mal plutôt. Et alors elle disait, bah, non, enfin, je vois pas pourquoi, etc., etc. Et alors, on leur a dit, mais il y a des enfants. Et alors, leur réponse, ça a été, mais, et s'il y avait des enfants qui se sentaient concernés par cette affiche, peut-être que ça les sauverait. Voilà. Deux petites choses sur comment on se sent concerné ou pas, comment on s'adresse finalement aux autres.
Je pense que sur ces mots-là, de différentes perspectives, je pense qu'on va vraiment demander s'il y a d'autres questions, sinon de notre public fidèle qui est resté avec nous ici, peut-être aussi sur la radio, peu nombreux, mais je pense que c'est, comme on a dit au début, c'est avec cette initiative, on a ouvert cette antenne grâce à Radio R22 et cette discussion n'a que à bondir dans une série, je pense, parce qu'on a juste ouvert la porte entre le mur et les personnes qui vont entrer. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et tous, à Yael, d'être avec nous aussi de loin. Et à très bientôt.